Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce micro-Rebelle Hebdo en date du vendredi 10 avril 2020 à 18h. Micro-Rebelle Hebdo, c'est tous les vendredis à 18h donc, sur micro-rebelle.fr et sur l'appli de la Franf. Par ailleurs, nos amis de Radio PFM 99.9 dans l'Arrajois nous rediffusent le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Nous les en remercions et nous saluons leurs auditrices et auditeurs. Enfin, un rappel, toutes nos émissions, tous nos reportages sont podcastables et téléchargeables sur micro-rebelle.fr, le site internet de notre web radio. Pour aujourd'hui, bien entendu, ce micro-rebelle hebdo ne vous proposera évidemment pas d'agenda social et culturel et fera donc une large place aux chroniques et reportages de nos salariés et bénévoles concernant l'actualité, donc autour de la crise sanitaire en cours. Je vous propose d'aborder l'actualité de cette crise sanitaire au travers des articles de presse, en commençant par la dernière livraison du Monde diplomatique. Le Monde diplo du mois d'avril propose en effet un dossier intitulé « Covid-19 et la vie bascula ». C'est un dossier très riche, articulé autour de plusieurs articles qui abordent chacun une thématique de cette crise sanitaire. Ce dossier commence par poser une question, je cite « Le virus aurait-il autant tué si les politiques d'austérité n'avaient pas démantelé l'hôpital public ?» Et le journal donne quelques éléments pour éclairer cette question. Je continue à citer. En 1980, la France disposait de 11 lits d'hôpital, tous services confondus, pour 1000 habitants. On n'en compte plus que 6 qu'une ministre de la Santé macroniste proposait de livrer aux bons soins de bed managers, c'est-à-dire des gestionnaires de lits, chargé d'allouer cette ressource rare. Le Monde diplomatique précise que cette statistique française s'applique partout. Aux États-Unis, les 7,9 lits pour 1000 habitants, recensés en 1970, se réduisent à 2,8 en 2016. Concernant l'Italie, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1980, 922 lits étaient réservés aux cas sérieux, entre guillemets, 922 lits donc, pour 100 000 habitants, contre 275 30 ans plus tard. Avec ces statistiques à l'appui, le journal précise, je cite, « Partout, un mot d'ordre, réduire les coûts. L'hôpital fonctionnera comme une usine automobile en mode juste à temps. » Instituée au milieu des années 2000, la tarification à l'activité, la T2A, proportionne le financement des établissements de santé au nombre des actes médicaux effectués, chacun facturé comme dans un magasin, plutôt qu'en fonction d'une planification des besoins. Fin de citation. Au cours de ces derniers mois, Micro-Rebelle a donné la parole aux urgentistes et au personnel hospitalier, en grève, en lutte contre l'austérité imposée à l'hôpital public. Ces mêmes personnels soignants sont aujourd'hui présentés comme des héros par les états-majors macronistes et par les grands médias. Il n'est pas sûr que cela suffise à les rendre amnésiques. Mais revenons au dossier du Monde diplomatique avec un autre article au titre significatif « Une mine d'or pour les laboratoires ». L'entame de cet article précise « La France s'est révélée incapable de dépister massivement les malades du Covid-19, révélant la dépendance de la santé publique vis-à-vis des laboratoires privés. » Et le diplo éclaire le titre de cet article « Une mine d'or pour les labos » en se référant au cours de la bourse. Je cite, à la mi-mars, alors que les bourses s'effondraient, l'action du laboratoire pharmaceutique Gilead grimpait de 20% après l'annonce des essais cliniques du Remdesivir contre le Covid-19. Celle d'Inovia Pharmaceuticals gonflait de 200% à la suite de l'annonce d'un vaccin expérimental, Inno 4800. Celle d'Alpha Protech, fabricant de masques de protection, bondissait de 232%. Quant à l'action de Co-Diagnostics, elle flambait de plus de 1370% grâce à son kit de diagnostic moléculaire du coronavirus responsable de la pandémie de Covid-19. D'où la question que pose le Diplo : comment expliquer qu'au cœur de la tourmente, il soit ainsi possible de s'enrichir alors même qu'il manque des masques de protection, y compris pour les médecins et les personnels soignants, et que les tests de dépistage restent inaccessibles au plus grand nombre après 3 mois d'épidémie. Cette interrogation fait bien sûr immanquablement penser aux débats actuels sur le port du masque. Aujourd'hui, il pourrait être question de rendre obligatoire ce port du masque, alors que, souvenons-nous, il y a quelques semaines, le gouvernement expliquait que le port du masque était inutile. L'article du Diplo, que nous ne pouvons pas évoquer davantage dans le cadre de cette chronique, aborde la question des tests de dépistage, très présents dans plusieurs pays, mais soigneusement évités en France, aborde également la question de la pénurie des composants chimiques essentiels au dépistage, et enfin la question de la fébrilité à l'œuvre actuellement dans le domaine de la recherche d'un vaccin, une recherche qui se fait essentiellement par incitation financière et par brevet. Ce qui permet à l'auteur de cet article d'indiquer, je cite, « C'est une crise de notre politique de santé, de recherche et de production où l'industrie pharmaceutique joue une place centrale mais soigneusement maintenue à distance du débat public. » On va maintenant terminer ce balayage de ce très riche, je l'ai dit, dossier du monde diplomatique en abordant ce que beaucoup de commentateurs appellent le jour d'après. Le Diplo s'appuie notamment sur l'exemple des crises précédentes, des crises pas forcément sanitaires. Avec cette question introductive, une fois cette tragédie surmontée, tout recommencera-t-il comme avant ? D'autant que, précise le journal, depuis 30 ans, chaque crise a nourri l'espérance déraisonnable d'un retour à la raison, d'une prise de conscience, d'un coup d'arrêt. La crise boursière de 1987 allait contenir la flambée des privatisations. Les crises financières de 1997 et de 2007-2008 allaient faire tituber la mondialisation heureuse. Ce ne fut pas le cas. Qu'en sera-t-il avec la crise présente en 2020 ? Que penser par exemple de ce qu'exprime Emmanuel Macron quand il déclare sa volonté, je cite, « d'interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour ». Et plus loin, je continue à citer le chef de l'État, « ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché ». Fin de citation. Le monde diplomatique est pour le moins dubitatif. Et à propos des masses d'argent injectées aujourd'hui pour sauver l'économie, rappelle, je cite, « ce transfert massif d'argent public vers le secteur privé rappelle le sauvetage des banques par l'État en 2008. L'addition avait pris la forme de l'austérité imposée aux salariés et aux services publics. Moins de lits ? Oui, il fallait renflouer les banques. » C'est pourquoi le journal continue son parallèle entre 2008 et 2020, en mettant en perspective le discours d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron avec celui de l'époque de Nicolas Sarkozy. Je cite « L'épiphanie du chef de l'État évoque celle qui frappa Nicolas Sarkozy un jour de septembre 2008, peu après l'effondrement de Lehman Brothers. Devant ses partisans médusés, le président de la République avait solennellement annoncé « une certaine idée de la mondialisation s'achève avec la fin d'un capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l'économie et avait contribué à la pervertir. L'idée que les marchés ont toujours raison était une idée folle. » Et le Diplo conclut, ce qui ne l'empêcha pas, Nicolas Sarkozy, une fois la tempête passée, de reprendre le cours de la folie ordinaire. Et on en revient donc à cette fameuse question du jour d'après. Comment perturber un scénario qui semble écrit d'avance ? Comment ne pas se contenter des propos d'Emmanuel Macron qui souhaite interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde ? Autrement dit, si on ne souhaite pas se contenter d'interroger le modèle de développement, comment en changer ? Et pour être encore plus radical, dans le sens de prendre le problème à la racine, comment changer de système ? Comment se débarrasser du capitalisme ? C'est dans cette perspective que plusieurs organisations mettent en ligne une campagne de pétition intitulée « Plus jamais ça ». Cette campagne s'articule autour de 7 mesures, 4 mesures d'urgence et 3 mesures à long terme. Les 4 mesures d'urgence, arrêt immédiat des activités non indispensables. Deuxièmement, réquisition des établissements médicaux privés et des entreprises. Troisième mesure d'urgence, suspension des versements de dividendes. Et enfin, la quatrième, utilisation des 750 milliards d'euros de la BCE pour répondre aux besoins sociaux et non pour alimenter les marchés financiers. Et puis enfin, donc, les trois mesures à long et moyen terme, développement de tous les services publics. Deuxièmement, fiscalité plus juste et redistributive. Et enfin, réorientation et relocalisation solidaire de l'agriculture, de l'industrie et des services. Bien entendu, on ne peut qu'être d'accord à la fois sur le constat que dressent ces organisations signataires et sur les mesures revendiquées. Cependant, on ressort de la lecture de cette pétition et de la tribune qui l'accompagne avec un sentiment d'inachevé. En particulier quand il est écrit, je cite, « Nos organisations n'attendent pas des discours, mais de profonds changements politiques. On reste sur sa faim en se demandant si cette tribune a bien conscience de s'adresser à un gouvernement qui fait tout et fera tout pour que rien ne change et qui fera payer cette crise aux salariés au détriment notamment des services publics comme les gouvernements précédents l'ont fait lors des crises précédentes. » Alors bien sûr, cette campagne, cette tribune, ont le mérite de faire œuvre d'éducation populaire en proposant une analyse des dérives du néolibéralisme et des mesures qu'il conviendrait d'engager à court et moyen terme. Et en ce sens, faire œuvre d'éducation populaire en mettant ce texte en débat, c'est important. Mais c'est peut-être aussi un peu court si cela s'inscrit dans une adresse au gouvernement. Le gouvernement est en effet le gardien du temple d'une organisation sociale prédatrice, le capitalisme, une organisation sociale dont le soubassement, c'est l'obligation de générer du profit pour une minorité. C'est sans doute aussi cela qu'il convient d'expliciter, de même qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences. On ne viendra à bout de cette organisation sociale, le capitalisme, qu'en en remettant en cause, par la lutte, les fondations. Autrement dit, quand toutes et tous, travailleuses, travailleurs, usagers, habitantes et habitants, nous nous réapproprierons l'ensemble des activités productives, l'ensemble des entreprises qui sont la propriété d'une minorité d'actionnaires qui impostent aux autres leur loi, la loi du profit. Donc, lisons cette tribune et cette campagne, plus jamais ça, comme un bel éclairage sur la situation de crise actuelle, mais sachons aller au-delà et inscrire cet éclairage dans nos luttes pour changer le système. Eh bien, justement, puisqu'on parle de sortir du capitalisme et de se réapproprier les moyens de production, je vous propose maintenant d'écouter un collectif pour lequel le problème n'est pas là. Ce collectif, c'est Pièces et Main-d'œuvre, et pour eux, la solution, ce n'est pas d'abattre le capitalisme, mais c'est de sortir du système technicien. Micro-Rebelle a déjà reçu Pièces et Main-d'œuvre en studio. C'était en 2017, à propos du transhumanisme et des compteurs communicants. Vous pouvez par exemple taper PMO dans le moteur de recherche sur notre site micro-rebelle.fr. Aujourd'hui, concernant leur analyse de la crise du coronavirus, c'est un entretien téléphonique que nous vous proposons, un entretien conduit et réalisé par Luc.
Pièces et Main-d'œuvre est un atelier grenoblois de bricolage pour la construction d'un esprit critique. Ni experts ni contre-experts, ils analysent à partir d'enquêtes l'emprise de plus en plus totale de la technologie sur nos vies, au travers d'un système industriel planétaire et d'une économie unifiée. Récemment, ils ont publié un article intitulé « Leur virus, nos morts », également diffusé dans la revue lilloise chez Renard. Un article qui renseigne sur le caractère civilisationnel des pandémies telles celles de coronavirus, l'urbanisation, la destruction des habitats naturels, la pollution, le lien avec les maladies chroniques, entre autres, sont mis en perspective avec la crise sanitaire que nous vivons. Alors pour vous, l'émergence de pandémies telles que celle de Covid-19 que nous traversons, qui est une maladie zoonotique qui vient de l'animal, tout comme la grippe aviaire ou le sida, ces maladies trouvent leur cause matérielle dans la société industrielle. Alors est-ce que vous pouvez rappeler ce que ça signifie? Quelles seraient ces causes matérielles? Est-ce qu'on peut voir ça en termes d'habitat, c'est-à-dire les habitats urbains, pollués, surpeuplés, ou entre le contact entre différents types d'habitats, la ville et le biotope naturel?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'émergence de ces maladies qu'on appelle zoonotiques, donc qui viennent des animaux, elles s'accélèrent singulièrement depuis 50 ans. avec l'accélération du mode de vie industriel et le fait que les humains maintenant se concentrent de plus en plus à la fois dans des grandes mégalopoles, les métropoles, hein, mais aussi que ces métropoles ont tendance évidemment à manger le territoire naturel autour, puisqu'il y a aussi de plus en plus d'humains. Donc à la fois on densifie et on élargit la présence humaine sur la Terre, et donc on va empiéter sur l'habitat des animaux qui jusqu'ici, jusqu'à il y a 100 ans, 200 ans, vivaient loin de nous. On n'avait pas de contact aussi proche et fréquent avec tout un tas d'espèces sauvages, évidemment. Et donc on sait maintenant que la colonisation en quelque sorte du monde naturel par les humains les rapproche des animaux et favorise la transmission de maladies qui jusqu'ici restaient dans le milieu animal, disons. Hein, et donc effectivement, tous ces virus-là, le SRAS, la grippe H5N1, le Ebola, bien sûr, et puis le dernier en date, donc le Covid-19, nous viennent des animaux et du fait que on est trop proche d'eux et qu'on leur laisse pas d'espace pour vivre, en fait, tout simplement. Alors ça s'accélère avec toutes les grandes accélérations industrielles, c'est-à-dire les transports, évidemment, les déplacements humains d'un bout à l'autre de la planète, la déforestation, l'urbanisation, on en a parlé, et l'élevage industriel et le trafic d'animaux sauvages. Tous ces facteurs-là font que quand on est entassé les uns sur les autres, on crée du contact, et le mot contact en latin a donné contagion. Donc on commence à comprendre un petit peu ce qui nous arrive.
Alors il y a aussi le fait très remarquable que les personnes les plus touchées par le Covid-19 sont des personnes qui, ou les plus sensibles, sont des personnes qui sont déjà atteintes par des maladies de civilisation, comme le diabète ou les maladies chroniques respiratoires. Et également, les personnes les plus touchées sont des personnes qui habitent en ville.
Oui, alors effectivement, quand on parle de maladies de civilisation, c'est les médecins qui utilisent ce terme. Qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire les maladies de la civilisation industrielle, en fait. Hein. C'est toutes ces maladies liées à la pollution de l'environnement, et puis aussi à des modes de vie, à une alimentation industrielle, et à la sédentarité, à des modes de vie donc liés au fait que on fait moins d'efforts physiques aussi, et puis qu'on vit dans un environnement de plus en plus empoisonné, l'eau, l'air, les sols, quel que soit le côté où on se tourne, les pollutions manquent pas. Et donc tout ça a créé en fait de nouvelles épidémies en quelque sorte, même si le mot est pas approprié, il n'y a pas de contagion à proprement parler, mais on a quand même des épidémies d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, sans parler du cancer, qui sont directement liées au mode de vie industriel. Et effectivement, ces maladies-là, c'est ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité en ce moment à propos du Covid-19, c'est-à-dire que les gens les plus fragiles, bon, il y a les plus âgés, et puis il y a tous ceux qui sont déjà atteints de ces maladies industrielles. Donc il y a en quelque sorte une double peine, quoi. Les maladies industrielles, elles nous affaiblissent, nos capacités de résistance à d'éventuelles épidémies qui, par ailleurs, reste finalement assez bénigne pour des gens qui sont en bonne santé. Donc on voit bien que mais ça c'est un vieux débat sur la question de la maladie et de la santé, c'est-à-dire que être malade, c'est d'abord ne pas être en bonne santé. C'est une manière un peu, ça semble évidemment pléonastique de dire ça, mais c'est vrai que plus on vit dans un environnement sain qui permet de garder des conditions de vie à peu près saines, moins on risque de tomber malade quand arrive un épisode comme celui-ci, évidemment. Et par ailleurs, en effet, on se rend compte que les gens qui sont affaiblis du point de vue respiratoire, qui ont des problèmes tout simplement de respiration au quotidien, ils vivent dans les zones les plus polluées. La pollution de l'air, ça tue beaucoup plus de gens que le Covid-19. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'hécatombe. Hein. Tous les ans, c'est 48 000 Français. Et vous, dans le Nord, vous êtes bien placés pour le savoir, parce que vous êtes une région très touchés par ça, mais nous aussi à Grenoble, hein, on a une forte pollution de l'air. Et ça, on s'est rendu compte aussi, là apparemment, que si on suit les zones d'épidémie du Covid-19 où il y a le plus de mortalité, on tombe en effet sur des endroits qui sont les plus pollués au niveau de l'air, que ce soit le nord de l'Italie, la zone de Wuhan en Chine, et puis malheureusement aussi en France, on regarde l'Île-de-France, les Hauts-de-France, c'est des endroits qui sont particulièrement touchés par les pollutions aux particules fines, et il semblerait que les particules fines soient un vecteur peut-être accélérateur de la circulation du virus, comme si c'était un fixateur, quoi, en quelque sorte, et donc qui pénètre les poumons plus facilement. Donc tout ça, ça s'adresse un tableau, en effet, d'une pollution industrielle qui favorise une épidémie.
Dans un ouvrage de 2009 intitulé « À la recherche du nouvel ennemi 2001-2025, rudiments d'histoire contemporaine », vous aviez en quelque sorte prédit ce type de crise. D'abord, qu'est-ce qui vous a permis de le prédire, de le prévoir ? Est-ce que c'est l'analyse d'un processus de rationalisation de l'existence qui est à l'œuvre dans notre société ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et est-ce que vous pouvez évoquer une espèce d'ultimatum à ce processus, et vous en parlez un petit peu dans l'article, qui serait l'introduction de la contrainte, et on a l'impression qu'on y est un peu dans cette forme de contrainte, oui, avec le confinement.
Oui, tout à fait. Effectivement, pour les gens comme nous qui, depuis plus de 20 ans, essayent de comprendre le monde dans lequel nous vivons, à partir de ce qui nous a sauté aux yeux, c'est-à-dire que ce qui transforme le plus nos vies, le monde et la politique, c'était la technologie, en fait, c'était les avancées technologiques. Pour nous, pour les gens comme nous, ce qui arrive n'est pas une surprise. Et en effet, dans ce livre, on avait déjà envisagé le fait que, à l'occasion d'une crise qui pourrait être, par exemple, une pandémie, mais il y avait d'autres options possibles, et il y en a encore d'autres qui sont ouvertes, hein, malheureusement, eh bien, ces crises-là sont des moments où on peut accélérer, où le pouvoir peut accélérer la contrainte qu'il exerce sur les sans-pouvoirs, c'est-à-dire sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que la technologie, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, évidemment, et qui permet de distinguer entre ceux qui la maîtrisent et la possèdent, ce que nous on appelle les technocrates, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les machines, les logiciels, l'intelligence artificielle, toutes ces choses qu'on est en train de déployer en ce moment, qui sont donc des ingénieurs, des techniciens, des concepteurs, des chercheurs. Eux, ce sont les maîtres et les possesseurs, en quelque sorte, de la machine. Et puis ceux qui subissent, au fond, qui ne peuvent rien, parce que, tout simplement, ils n'ont pas le savoir, et qui sont donc soumis à ce monde de plus en plus technifié, machiné. Et on le voit bien aujourd'hui dans le quotidien qui nous est fait. Et ce qu'on a essayé d'expliquer depuis 20 ans, c'est que ce développement technologique, en effet, nous fait entrer dans une société de contraintes. Ce qu'on entend par là, c'est le fait qu'il est de plus en plus difficile de vivre en dehors de la sphère technologique, et on le voit pas singulièrement en ces temps de confinement, c'est-à-dire que nos vies sont devenues entièrement dépendantes de la connexion, du fait d'avoir des outils qui nous connectent, mais qui nous connectent à quoi, au fond, qui nous connectent à la machine elle-même, au système, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus autonome. Il est très difficile pour nous d'avoir des vies autonomes dans ce monde technologique, et que donc il est possible pour le pouvoir de nous piloter en quelque sorte par le biais de sa machinerie cybernétique, comme on le voit par exemple dans les smart cities. Et c'est intéressant d'ailleurs de se dire que Wuhan, la ville d'où est parti le virus, fait partie des plus grosses smart cities au monde. C'est quoi une smart city ? C'est l'idée qu'on va piloter toute la vie des humains, mais les humains considérés vraiment comme des flux et des stocks, hein, de façon centralisée par la machine, c'est-à-dire on automatise absolument tout, vous êtes connecté en direct avec les réseaux de transport, vous avez maintenant des voitures autonomes qui vont vous remplacer. L'idée, c'est qu'on va remplacer la décision de l'humain par des automatismes machiniques. Et là-dedans, une fois qu'on est pris là-dedans, on n'a plus de liberté au sens, non pas une liberté de choix comme ça qui serait celle d'un consommateur, mais de maîtrise sur sa vie. Nos décisions, notre façon de vivre sont pilotées en quelque sorte par la machine. Et évidemment, ce processus de rationalisation, il explose à l'occasion d'une crise comme celle qu'on connaît. Et chacun peut voir que maintenant, on en est à parler de contrôle par géolocalisation, par exemple, des personnes contaminées, d'utiliser le big data pour retracer les parcours de chacun, et donc pouvoir éventuellement vous avertir si vous avez été en contact avec quelqu'un de contaminé. C'est déjà le cas, ça se fait à Singapour, en Israël, mais je lisais hier dans le monde, qu'un sondage a été fait auprès des Français et qui sont majoritairement pour cette idée-là, l'idée d'une application qui leur dirait, qui les suivrait, hein, qui leur dirait, bah, vous, à tel moment, vous avez été en contact avec telle ou telle personne et donc susceptible d'être contaminée. Donc on voit que cette idée que la machine prendrait en charge toute notre vie, elle est déjà largement acceptée. Et c'est évidemment pour nous pas une surprise, malheureusement. C'est des choses qu'on a essayé de décrire et d'anticiper depuis très longtemps déjà.
Je cite toujours cet article, « Leur virus, nos morts ». Nous ayant conduit à la catastrophe, les experts de la technocratie prétendent nous en sauver au nom de leur expertise technoscientifique. Alors ça paraît tout à fait paradoxal. On pourrait même dire que, du point de vue de tout ce qui a été dit précédemment, ça doit laisser quand même un goût. Ça donne aussi l'impression qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien pour éclairer un avenir moins sombre dans ce contexte-là.
Alors, bon, nous, on fait pas de prédictions, hein. Ouais. On n'essaye pas de, comment dire, de. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Néanmoins, il nous semble que si on cherche à trouver des pistes, des sorties de secours, il faut d'abord commencer par bien comprendre ce qui nous arrive. Et c'est ce à quoi nous essayons de nous employer depuis 20 ans, de vraiment comprendre ce qui arrive, d'où tout cela part. Et par exemple, contrairement à ce qu'on peut lire beaucoup ces temps-ci, pour nous, la question n'est pas du tout celle du capitalisme. On voit beaucoup, c'est la crise du capitalisme, etc. Non, pour nous, c'est d'abord, c'est quelque chose de plus profond. Et au fond, on pourrait très bien sortir du capitalisme. D'ailleurs, en ce moment, tout ce qui se passe au niveau économique nous laisse perplexes. Au fond, on voit l'État qui reprend la main, on parle de nationalisation, on parle de réquisition, et on pourrait très bien sortir du capitalisme. Ça ne changerait rien pour nous au fond du problème. Le fond du problème, il vient, on l'a dit, en ce qui nous concerne de la technologisation, si je peux dire, de nos vies et du mode d'organisation industrielle de nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons renoncé à exercer une part de notre libre arbitre et nous avons renoncé à une part d'autonomie en confiant toujours plus des parts de nos vies à un système centralisé et automatisé. Donc, si on se dit comment sortir de là, la première chose, c'est d'abord de bien comprendre les causes de tout ça. Les causes de tout ça, c'est probablement le fait que il y a à la fois chez certains, les technocrates et ceux qui ont vraiment les moyens d'agir, une vraie volonté de puissance, quelque chose qui est au-delà de simplement vouloir s'enrichir et devenir un capitaliste, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une volonté de puissance, de pouvoir tout ce qu'on peut sur le monde matériel et sur la vie. Et ça, c'est difficile de l'extraire de certains humains. Et puis, en face, ce qui sert cette volonté de puissance, c'est une forme d'abandon de soi, de résignation et de... J'ose pas dire le mot paresse, mais quand même, quelquefois on a cette sensation-là que les humains qui ont bénéficié de tout ce confort matériel, finalement ne savent plus trop ce que c'est que de faire un effort pour être libre. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on place le débat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour défendre cette liberté. La liberté, c'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes, c'est un travail de tous les jours, c'est un effort, c'est une tension. Est-ce que c'est à ça qu'on tient d'abord ou pas? Et bon, là, le débat est ouvert, hein. Nous, on défend cette position, peut-être que d'autres préfèrent, et en ce moment, j'ai un peu peur que ce soit ça, préfèrent mettre avant tout la sécurité, la prise en charge, avant la liberté. Bon, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a besoin de réfléchir à ces questions-là, en ces termes-là.
Donc ça rejoint aussi une critique de la gauche qui est formulée à la fin de cet article. Justement, elle est exprimée en termes de... effectivement, il nous faut des services publics, effectivement, il faut des soignants qui soient beaucoup mieux payés, mais c'est pas là que ça se joue actuellement.
Si vous voulez, quand on lit les textes qui circulent, et Dieu sait s'il en circule beaucoup en ce moment, et tous ceux qui proviennent, disons, de la gauche ou de l'extrême gauche, des syndicats, de toute cette partie-là des militants, on a l'impression que comme je le disais, la solution, c'est de encore et toujours d'abattre le capitalisme. Comme si, parce que ça repose sur une vieille idée qui circule beaucoup dans ces milieux-là, qui est que, au fond, la technologie et l'industrie, C'est neutre, ça n'a pas d'effet sur l'organisation sociale et humaine. Simplement, le problème vient de qui les possède. Et il suffirait donc de, en quelque sorte, de s'approprier collectivement les moyens de production, hein, selon le vieux slogan marxiste, communiste en tout cas, et donc de gérer collectivement, en quelque sorte, le système industriel à notre profit pour en supprimer magiquement, en quelque sorte, tous les problèmes. Mais évidemment, ça c'est une illusion. Parce que l'industrie, le système industriel, l'organisation industrielle de la vie, l'exploitation industrielle du monde, ça implique en soi des transformations délétères. Par exemple, évidemment, on ne peut pas produire industriellement sans détruire l'environnement. Ça, c'est, on a beau tourner ça dans tous les sens, il n'y a pas de solution magique et miracle. Et on arrive maintenant au moment où on commence à toucher les limites. Et malheureusement, ce que disaient les écologistes depuis les très anciens, les plus anciens, depuis les années 30, 40, n'a pas été entendu. Et c'est seulement quand on arrive contre le mur maintenant qu'on commence à se dire qu'il y avait un problème.
Enfin, je reviens à cette question de la technologie et de son emprise de plus en plus totale sur nos vies. Est-ce que d'après vous, cette épidémie ou cette pandémie peut être l'occasion d'un basculement ? Et j'entends par là l'idée que, effectivement, il peut y avoir tout un tas d'expérimentations, de nouvelles technologies, d'introduction de nouvelles technologies qui jusque-là auraient peut-être paru suspectes. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la géolocalisation et aussi en termes d'habitudes prises par les consommateurs, consommatrices.
C'est évident puisque le réflexe massif, le premier réflexe au moment du confinement, ça a été de se jeter sur Internet et de dire au fond la survie passera par la connexion virtuelle, par la vie virtuelle. Donc c'est l'école à distance, c'est les téléconsultations médicales, évidemment le télétravail et ainsi de suite. Et personne n'a pensé qu'il pourrait en être autrement. C'est-à-dire que nous sommes déjà tellement habitués à ces connexions au quotidien que, au fond, ça a paru naturel. Alors, y compris pour des domaines où on pouvait peut-être, certains pouvaient quand même avoir un peu des réticences. Je pense notamment à l'école à distance, à l'école numérique. Mais là, on est en train, effectivement, de faire des expérimentations à ciel ouvert, en quelque sorte, à l'échelle de pratiquement d'une population planétaire, hein, puisque c'est maintenant un terrien sur deux qui est confiné. Et il est évident qu'on en tirera des leçons, enfin que le pouvoir en tirera des leçons pour dire, bah, vous voyez, ça apporte des choses, vous en êtes finalement bien sortis, pourquoi pas continuer. Ça, c'est évident que on est en train de faire une expérimentation en taille réelle. Mais j'insiste pour dire que c'était pas évident, on n'est pas obligé de faire ça. Et par exemple, si on n'avait pas retiré les manuels scolaires de bien des classes, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de classes qui n'ont plus de manuels scolaires avec l'école numérique, on aurait tout simplement pu dire aux élèves, bah écoutez, vous avez vos manuels scolaires et vous allez pouvoir suivre des chapitres pendant ce confinement, travailler par vous-même avec, comme c'est le cas aujourd'hui, éventuellement l'aide à la maison de ceux qui sont là, ou éventuellement on aurait pu imaginer des systèmes avec des aides d'enseignants, hein, même à distance. Mais bref, il n'y avait pas de fatalité à se ruer sur Internet comme ça. Simplement, ça n'a pas posé question parce qu'on est déjà largement habitué à ce système-là. Mais c'est vrai, on est en train de franchir des paliers sur lesquels je pense qu'on reviendra pas. L'autre exemple, c'est les consultations médicales à distance, évidemment, où on est en train de faire des expériences qui permettront ensuite de dire, bah vous voyez, il y a des déserts médicaux, mais on n'est pas obligé d'avoir un médecin dans chaque village. Après tout, on peut consulter son médecin à distance. Et oui, il y a des habitudes qui seront prises, c'est évident.
Cette interview a été menée avec pièces et main-d'œuvre, atelier de bricolage d'un esprit critique, à partir de leur article « Leur virus, nos morts », article que vous pouvez lire directement sur leur site piecesetmaindoeuvre.com. Thank you.
web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Musique libre dans ce micro-rebelle hebdo avec le groupe Neurotic Sound Foundation. Ce groupe, c'est quelques samples de musique gypsy, des machines en pagaille, et ça donne cette musique barrée mais festive. Ce micro-rebelle hebdo se poursuit sur micro-rebelle.fr ou sur l'appli de la Franf, ainsi que sur les ondes de nos amis de Radio PFM 99.9.
Nous continuons notre tour du monde d'informations sur le Covid-19. Cette fois, nous sommes au Mali avec un témoignage de Abdoulaye Attara, pharmacien à Bamako.
Bon, la situation au Mali face au coronavirus, c'est un peu la panique parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de pandémie. Donc c'est un peu la panique, mais on maîtrise la situation.
Quelles sont les mesures prises par le gouvernement malien face à cette crise?
Les mesures prises par notre gouvernement. Bon, en un premier temps, ils ont restauré un couvre-feu qui dure de 21h à 5h du matin pour la sécurité de la plupart de la population. En deuxième temps, les CSCOM, les centres de santé sont équipés pour la prise en charge au cas où quelqu'un aura ce virus, ou encore les mesures sanitaires aussi sont sur place. Dans chaque coin, il y a des barriques remplies d'eau avec du savon et des gels hydroalcooliques.
Comment est le système de santé au Mali?
Oui, le système de santé au Mali, comme dans tous les autres pays sous-développés, c'est comme ça. Et nous sommes là et on fait face à cette pandémie. Il y a une équipe spéciale pour ça. S'il y a un cas par-ci, par-là, ils partent prendre la personne ou faire un test. Il y a trop de tests qui ont été faits et qui est s'avéré négatif. C'était des cas suspects.
Le Mali peut-il faire face à une épidémie? Comment ça se passe dans les campagnes? Comment se passe la prise en charge des patients?
Bon, je ne peux pas dire que le Mali peut faire face à cette pandémie. Aucun pays ne peut faire face à cette pandémie sans respecter les règles respectives relatées par le gouvernement. C'est-à-dire respecter les consignes sanitaires, c'est-à-dire laver les mains avec le savon chaque 2 heures, mettre les gels hydroalcooliques et mettre les masques, puis respecter la distance entre les personnes qui est de 1,5 à 2 mètres, sans quoi personne ne peut faire face à cette fléau. Et bon, dans les villages, c'est la panique totale. Parce qu'en un premier temps, dans nos villages, les villageois ne comprennent pas ce genre de maladie. Ils disent que c'est des rumeurs, on ne croit pas, parce que la plupart au village, c'est des illettrés. Donc, ils ne prennent pas cette maladie au sérieux. Et puis, la prise en charge se fait des patients, se fait dans plusieurs coins à Bamako, dans les CCRF, dans les centres de santé. Il y a un coin spécifique pour ça aussi. Chaque cas de malade est pris en charge par un service compétent.
Toi, en tant que pharmacien, quelles sont tes missions en ce moment?
Bon, moi, en tant que pharmacien, je ne fais pas l'exception. Je suis comme tous les autres. Je respecte les consignes sanitaires. Je donne des conseils à chaque client qui s'approche. Actuellement, chaque argent pris, on désinfecte l'argent et puis avant l'encaissement. Et puis il y a des clients qui portent les gants. Je leur conseille que le gant, ça infecte rapidement. Ça infecte rapidement parce que toute chose que tu touches avec les gants serait infectée. Donc il serait mieux de laver la main avec du savon. 30 secondes au maximum, et puis mettre les gels hydroalcooliques, se frotter les mains avec les gels hydroalcooliques. Chaque 2 heures, il faut aller se laver les mains avec le savon et frotter les gels alcooliques. C'est mieux que de porter les gants. On sensibilise. Il y a d'autres qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Même si on leur dit de respecter la distance réglementaire entre le client qui est de 1 mètre à 2 mètres, il y a d'autres qui contestent, il y a d'autres qui comprennent. C'est comme ça, quoi. Tout le monde n'a pas un degré de compréhension, quoi. Le même degré de compréhension, je veux dire.
As-tu quelque chose à ajouter?
Oui, j'ai quelque chose à ajouter. J'ai quelque chose à ajouter. J'insiste. J'invite le gouvernement à s'impliquer davantage. Ils font de leur mieux, mais je les appelle à s'impliquer davantage. À s'impliquer davantage tout en sensibilisant la population à respecter les règles, à ne pas faire la violence, mais à respecter les règles de l'hygiène, sensibiliser les jeunes à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela, pour leur bien, à eux d'abord, avant le bien des autres.
Merci aux adhérentes, adhérents et bénévoles de Micro-Rebelles qui s'investissent durant cette période de confinement et qui permettent la réalisation de reportages tels celui que nous venons d'entendre, réalisé depuis Bamako, au Mali. Nous terminons ce Micro-Rebelles Hebdo par un entretien autour du métier d'éducatrice spécialisée durant le confinement. C'est un échange conduit et réalisé par Elsa.
Lors d'un confinement, les violences intrafamiliales s'accentuent, notamment les violences des adultes sur les enfants. Nous avons interrogé Solène, éducatrice pour une association d'accompagnement des enfants suivie par le service de l'aide sociale à l'enfance, en collaboration avec les MDS, maisons du département Solidarité, les juges pour enfants et les lieux d'accueil. Nous la questionnons sur son travail pour comprendre les raisons de l'accentuation des violences et voir quelles sont les possibilités d'action des professionnels en ces temps de confinement.
Alors moi, je suis éducatrice dans un service de placement à domicile, donc il dispose de deux dispositifs. Le premier, c'est le dispositif de maintien à domicile, donc ça, c'est quand les enfants ils sont pas encore connus de placement en institution ou en famille d'accueil. Et le deuxième, c'est le dispositif d'accompagnement de retour en famille, qui s'appelle DARF. Et ça, c'est quand les enfants ils ont connu un placement en institution ou en famille d'accueil. Alors, on intervient très régulièrement à la demande du juge des enfants, mais ça peut être aussi à la demande de la MDS dans le cadre de mesures administratives, mais c'est vraiment plutôt rare. Donc nous, on doit rendre des comptes, que ce soit à la MDS ou au niveau du juge des enfants, sachant qu'on a des mesures, on intervient pour une durée de 6 mois et ça peut être renouvelable qu'une fois. Donc au grand maximum, on est chez la famille 1 an. Nos mesures, elles se déroulent comme telles. On intervient 1, 2 ou 3 fois par semaine au domicile. En fait, on doit faire 3 actions. Donc, ça peut être 2 visites et un travail en partenariat. Ça peut être ce genre de choses. Donc, nous, on doit veiller à la sécurité de l'enfant, de l'entente en famille. On doit veiller à ce que tout le monde s'entend bien, à ce qu'il n'y ait pas de violence, que ce soit de la violence physique, que ce soit de la violence psychique, que l'enfant ne se met pas en danger, qu'il ne soit pas dans des consommations, ce genre de choses. Et du coup, on intervient à la fois à la maison, mais on travaille aussi beaucoup en partenariat, que ce soit avec les établissements scolaires, avec les CMPP, donc avec tout ce qui est pour les suivis psychologiques. Des fois, ça peut être avec les centres sociaux, ça peut être avec les missions locales. On a vraiment un vaste travail en partenariat. Dans le cadre de nos dispositifs, on a un service d'astreinte. Donc en fait, l'association qui a un dispositif de placement à domicile est obligée d'avoir un service d'astreinte. Après, chaque association, parce qu'il faut savoir que c'est des associations qui gèrent tout ce qui est les mesures comme ça, chaque association est libre de gérer son astreinte comme elle le veut. Donc chez nous, c'est une astreinte à un éducateur qui, pendant du vendredi au vendredi, est d'astreinte le soir et les week-ends. Et on doit intervenir en cas de gros soucis. Lors de ces placements à domicile, on a la possibilité de, sans forcément tout de suite le demander au juge, d'extraire le jeune de la famille en cas de grosses difficultés et de le mettre dans une structure. Au sein des structures de notre association, il y a des places réservées pour les jeunes en placement à domicile. Et du coup, on est amené à, en cas d'urgence, en cas de danger ou en cas de gros conflit, à mettre le jeune dans cette structure. Et dans les 2 semaines qui suivent, on refait une rencontre tous ensemble, donc avec tous les acteurs, donc avec les chefs de service, l'éducateur, la famille, le jeune, la chef de service de la MDS, pour décider si le jeune peut retourner en famille, sous quelles conditions, ou si il faut penser au placement.
Avec le confinement, comment ça se passe pour toi désormais ?
Là, actuellement, avec le confinement, bon, c'est assez particulier, hein, c'est une situation inédite et du coup, on s'adapte un peu comme on peut. Les premières semaines, on a dû aller en renfort sur les structures de l'association. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'arrêts maladie. pour des éducs qui ne se sentaient pas bien ou pour des gardes d'enfants. Et du coup, dans notre association, il y a des foyers, donc des foyers qui dépendent de l'ASE, hein, de l'aide sociale à l'enfance, avec des ados qui étaient du coup en manque d'éducateurs. Il faut forcément les faire tourner, ces foyers, les jeunes restent là. Et donc du coup, on est venu les premières semaines pallier au manque d'éducateurs dans les structures. Donc on a un peu changé de service les premières semaines. Là, il y a des recrutements qui se sont faits. Donc là, désormais, on travaille en télétravail. Donc de chez nous, on appelle les familles, on gère par téléphone, on contacte les partenaires et on fait nos écrits. Donc là, effectivement, en ce moment, on contacte plus physiquement les familles. On les a au téléphone, que ce soit les jeunes ou les parents. Donc c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. On peut plus aller en famille. Là, on a une interdiction. Hein, donc là, on gère vraiment à distance.
Quelles ont été les consignes données par le gouvernement aux structures sociales comme celle pour laquelle tu travailles ?
Alors, quelles ont été les consignes données par l'État concernant les structures dans lesquelles on travaille ? Je ne suis pas au courant de tout, hein. Je ne suis pas chef de service. On a eu certaines informations qui nous ont été relayées. Mais il faut savoir que, en tout cas, dans le monde des sociales, on trouve qu'on a un peu les oubliés. On trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Pourtant, on travaille avec de l'humain, on travaille avec, nous particulièrement avec des enfants, mais il y en a qui travaillent avec des toxicomanes, il y en a qui travaillent avec des SDF, il y en a qui travaillent avec des femmes battues, il y en a qui travaillent avec des personnes handicapées, et on trouve qu'on ne parle pas de nous. Et du coup, qu'il n'y a pas forcément de dispositions mises en place. En tout cas, nous, aujourd'hui, à part avoir élargi le mode de garde aux travailleurs du social, c'est-à-dire que maintenant les éducateurs ne peuvent plus prendre l'arrêt pour leurs enfants puisque normalement il y a des écoles ou des crèches qui sont mises à disposition. J'ai pas eu écho forcément de choses que l'État met en place pour nos dispositifs. Alors peut-être qu'il y en a, mais en tout cas j'en ai pas eu écho. Ce qui a été fait, c'est par exemple pour éviter les violences familiales, ils ont mis en place un numéro. Donc le 114, où la femme ou l'homme battu, hein, parce que les hommes battus, ça existe aussi, peuvent envoyer un SMS. Mais sinon, je vous avoue que j'ai pas trop eu écho de choses qui ont été faites par l'État. On a vraiment le sentiment d'être un peu oublié, quoi.
Y a-t-il un risque d'accentuation des violences intrafamiliales sur les enfants avec le confinement ?
Alors concernant les violences familiales dans le cas du confinement, est-ce qu'il y a un risque à ce que ça s'accentue ? Forcément. Comme il y a un risque quand ça s'accentue pendant les grandes vacances, parce que les enfants restent au domicile, la femme reste au domicile, l'homme reste au domicile, donc forcément que ça va s'accentuer. Des chiffres, on n'en a pas, hein. On n'en a pas. Pourquoi ? Parce que c'est secret. Faut pas oublier que oui, il y a de la violence dans certaines familles qu'on accompagne, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, à mon goût, de familles où il y a de la violence et qui sont pas suivies par les travailleurs sociaux. Je le dis souvent, hein, on n'est pas magicien, on ne peut pas savoir derrière une porte qu'il y a de la violence, et du coup si personne dénonce, si les voisins ne dénoncent pas, si les professeurs ne dénoncent pas, si les médecins ne dénoncent pas, à aucun moment les travailleurs sociaux ils vont arriver dans cette famille. Donc de la violence, c'est certain qu'il va en avoir plus, hein, déjà en temps normal, je pense qu'une famille où il n'y a pas de violence, ça peut être fatigant, le confinement, d'être H24 dessus, les uns sur les autres. Souvent les familles précaires, ils ont des petits logements, c'est pas évident, il y a des enfants qui... Il y en a des familles, moi j'ai une famille où ils vivent à 7 avec 2 chambres, donc là en confinement j'imagine qu'ils sont les uns sur les autres. Mais il faut vraiment pas oublier que oui, il y a de la violence dans les familles qu'on suit, mais il y a malheureusement aussi beaucoup de violence dans des familles qu'on ne suit pas, qui passent à l'as auprès des services sociaux. Des services sociaux, pardon. Puisque si au bout d'un moment il n'y a aucun signalement qui est fait, les services sociaux ne peuvent pas aller dans la famille. C'est ça qui est très important si on est témoin de violence familiale envers les enfants. Peu importe où, il faut appeler le 119. Il faut savoir que vaut mieux le faire pour rien. Si on entend des cris, ce genre de choses, vaut mieux vraiment le faire. L'éducateur ira, il y aura une évaluation qui sera faite. Elle sera positive ou elle sera négative. En fonction de ça, il y aura peut-être un éducateur qui entamera un suivi. Mais il faut vraiment pas hésiter, parce que là, les familles qui sont isolées, les enfants peuvent pas aller à l'école raconter ce qui se passe, peuvent pas voir leurs camarades raconter ce qui se passe. Et du coup, s'il y a des enfants qui sont battus, et ben, ils sont H24 avec des parents violents. S'il y a des femmes ou des maris battus, pareil, ils ont pas la possibilité, j'ai une bêtise, mais par exemple, en ramenant l'enfant à l'école à discuter avec d'autres parents pour expliquer que c'est difficile à la maison, ils sont vraiment tous confinés ensemble. Souvent, c'est des gens qui ont très peu de ressources extérieures, hein. Donc c'est, oui, ça va accentuer, et bon, on l'a vu, hein, il y a eu un drame à Carvin il y a pas longtemps, où le conjoint d'une femme a tué la femme et a tué deux de ses enfants. C'est alors, est-ce qu'il y aurait eu lieu sans le confinement? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un drame et j'espère qu'il y en aura le moins possible. C'est quelque chose qui nous inquiète. Hein. On a certaines situations où ça nous inquiète. Quand on en discute avec nos collègues, encore une fois, on se dit que on est un peu démunis parce qu'on ne sait pas quoi faire. On sait que c'est un risque, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on sait que le risque est avéré, bien entendu, on va aller chercher les enfants, on va les mettre en structure. Mais en même temps, on les a qu'au téléphone. Donc, l'enfant peut très bien nous dire ce qu'il veut au téléphone. Les parents, ils peuvent très bien nous dire ce qu'ils veulent au téléphone. On n'est pas là pour vérifier, hein. On n'est pas là physiquement. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc concernant les jeunes qu'on suit, si on est au courant qu'il y a de la violence, comme j'ai pu l'expliquer avant, on prend le jeune, on le met en structure. Ça, on a vraiment la possibilité dans le cadre de dispositifs de placement à domicile, et c'est vraiment ça qui est assez important de savoir, c'est que si on sait qu'il y a de la violence, on a vraiment la possibilité d'aller chercher le jeune, même en période de confinement, hein, le chef nous laissera le faire. Aller chercher le jeune et le mettre en structure, donc le mettre en sécurité. Après, il faut qu'on soit au courant. Encore une fois, quand on appelle les jeunes, peut-être que les familles sont derrière en train d'écouter ce qu'ils disent, on ne sait pas. Les jeunes ne disent pas tout, les familles ne disent pas tout. Hein, donc oui, si ça avéré, on peut les protéger, mais on n'est jamais sûr de rien. Et d'ailleurs, même quand on y va, hein, quand on y va, la famille, elle nous montre ce qu'elle veut. Hein, on reste... quelques heures au domicile par semaine, le reste du temps on n'y est pas, on peut pas savoir ce qui s'y passe. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de transparence, je parlais de collaboration. Il y a eu des drames, hein, qui sont arrivés alors qu'il y a des travailleurs sociaux. Sauf que les travailleurs sociaux qui vont au domicile, et ben on n'y vit pas tout le temps, on n'est pas des petites souris, on n'installe pas des caméras. Et du coup on a des formations, hein, mais on peut pas tout voir non plus. Donc encore une fois, je le répète, il est vraiment très important que si vous êtes témoin de cris de violence, les professeurs, si vous voyez des bleus sur les enfants, il faut appeler le 119, vous pouvez le faire anonymement, c'est très important, les médecins pareil, et puis tous les citoyens, de toute façon, on est en France, on est dans l'obligation, hein, de faire ce genre de choses, parce qu'il faut savoir que s'il y a un décès, on peut être poursuivi pour non-assistance en personne en danger, c'est notre devoir en tant que citoyen de prévenir si on estime qu'il y a des personnes qui sont en danger.